agent britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin.
Je dis, on entre en Sahara comme on entre en religion. C'est un. On accède à un domaine vraiment très particulier et qui mérite un certain respect. On n'entre pas, il y a des choses qu'un homme bien élevé ne fera pas dans une église ou dans une synagogue ou dans une mosquée. Alors au désert, je me trouve un peu dans un endroit un peu sacré, à certains égards. Mais oui, un peu sacré.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Dans l'approbation que l'opinion publique a largement apportée, si l'on en croit les sondages, à notre récente intervention militaire au Mali, à l'opération dite Serval, de combien a pu peser une ancienne fascination pour le Sahara, pour sa noblesse, pour ses mystères et pour ses pièges, voilà qui est assez difficile à mesurer. Certes, mais on ne peut certainement pas faire l'économie de ce facteur de psychologie collective tissé de mémoire longue. Il y circule des caravanes de Touaregs, ces hommes bleus, avançant au rythme serein de leurs chameaux. Il y passe la légende de René Caillé, allant seul, déguisé en mahométan, comme on disait alors, et à grand péril, découvrir les mystères de Tombouctou. Il y surgit le fantôme de Charles de Foucault, le missionnaire bienheureux de Tamanrasset, qui y fut assassiné, ou bien celui d'Ernest Psychary, le petit-fils de Renan, que de Gaulle salua un jour comme un admirable semeur, et qui alla chercher dans le désert ce carrefour sacré, je le cite, d'où l'on sort condamné ou sauvé. Il y perdure la trace ensanglantée du colonel Flatters, massacré en 1880 avec ses troupes dans le cours d'une reconnaissance destinée à dessiner l'itinéraire, peut-être sacrilège, d'un chemin de fer transsaharien. Sans compter le crabe aux pinces d'or, où Tintin et Haddock sont sauvés de la soif par des méharés, sans compter aussi le légionnaire d'Édith Piaf, qui sentait si bon le sable chaud. Ainsi s'organisaient, dans les têtes et dans les cœurs, les composantes multiformes d'une mythologie. Nous allons nous y aventurer ce matin, en compagnie de Michel Pierre, historien et diplomate, dont le livre « Sahara, le grand récit » constitue la meilleure introduction possible vers cet univers réel ou rêvé.
Dans l'infini du silence, le long des pistes incertaines du désert, la caravane s'avance vers l'oasis dont le mirage au loin se perd. Mais quand là-bas se dessine la ligne verte des palmiers, tous les regards s'illuminent, le campement va s'installer. Et dans la nuit qui scintille, sous la caresse des étoiles argentées, la plus troublante des filles, pour les nomades va danser. Par-dessus le voile mystérieux, on ne devine que l'éclair de ses yeux, et son corps qui vibre au rythme obsédant, à des frissons ensorcelants. Danse, Aïcha, car tu mets de la joie dans les rêves du pauvre Fela. Danse, Aïcha, pour t'avoir dans ses bras, il vendait le paradis d'Allah. Ton
souvenirs l'accompagnent. Tandis qu'au long des pistes rouges du désert, la caravane s'éloigne. De l'oasis dont le mirage au loin se perd, un rêve fou le fascine. Ce soir il veut te retrouver. La caravane chemine, mais il y manque un chamelier. Dans l'infini du silence, tendant les bras vers l'horizon qui fuit toujours, seul, toujours seul, il s'avance vers le mirage de l'amour, vers Aïcha, vers l'oasis qu'il croit apercevoir là-bas, vers son amour, Aïcha, il va là-bas, Inch'Allah.
Michel Pierre, bonjour.
Bonjour.
Je viens de vous offrir... En coup d'archet pour notre conversation, je viens de vous offrir Boléro d'Islam, de Patrice et Mario, les auteurs étant Guy Favreau et Maurice Denoux, 1955. C'est une chanson évidemment très kitsch et assez tardive finalement. On l'aurait plutôt attendue dans les années 30.
Ah, tout à fait, on a l'impression d'une de ces multiples chansons, parce qu'il y en a eu un certain nombre entre les deux guerres mondiales. Dans
oui,
les
j'ai
années...
eu de la peine à choisir.
Hein. En fait, c'est la fin, mais c'est une synthèse. On a les couleurs du désert, on a les pistes rouges, on a la femme, on a les oasis, on a la belle Aïcha, on a... Et puis une chanson qui se termine par Inch'Allah. Finalement, c'est une espèce de petite marmite dans lequel mijotent tous les grands thèmes mythiques, mythologiques et un peu dérisoires que la France a eu sur le Sahara pendant des décennies.
Mais que nous allons rencontrer, ici c'est sous forme un peu caricaturale, mais que nous allons rencontrer, je crois, chemin faisant au long de cette émission.
Et c'est l'un des espaces liés à l'histoire de France où, effectivement, entre le faux, le vrai, le semblant, le rêve, la réalité, tout est un peu mêlé. C'est notre grand Far West, en fait, mythologique, le Sahara, dans l'histoire de France.
Notre frontière, vous diriez jusque-là ?
Il faut bien voir que le Sahara représenté à l'intérieur de l'histoire coloniale française, c'est le quart de la superficie, même si c'est une population un petit peu moléculaire et peu importante. Mais si on regarde un planisphère, c'est complètement au centre de ce planisphère, le Sahara. Hein, il y a un bout qui regarde vers la Guyane, un bout qui regarde vers l'Indochine. Saint-Pierre-et-Miquelon un peu plus au nord et l'Océanie beaucoup plus à l'extrême. Et le Sahara au milieu.
Au cœur de notre empire, comme on disait.
Au cœur de notre empire. Et c'est pour ça qu'il est si présent depuis les débuts de la constitution de cet empire jusqu'à la décolonisation.
Avec la fascination de l'immensité, puisque c'est presque 20 fois le territoire de la métropole.
Il y a l'immensité, il y a une dimension qui finira et qui commence même assez vite par être spirituelle, mystique, et tout ce qui fait les héros mythiques d'un pays, depuis l'explorateur jusqu'au militaire, en passant par l'ingénieur, en passant par le prospecteur, jusqu'à l'aventure du pétrole, tout y est, quoi. Quand on rassemble tout, on s'aperçoit que le Sahara, par ses paysages, par ses mystiques, mais aussi par la réalité de l'ingénieur et du prospecteur, est au centre de notre histoire pendant près d'un siècle.
Avec une mythologie militaire aussi, au fond, le massacre que j'évoquais de la mission Flat Earth peut évoquer certains drames qu'ont connus les États-Unis d'Amérique en constitution.
Ah oui, quand on voit dans la presse populaire de 1881, d'abord le choc de cette mission Flat Earth, alors on imaginait jusqu'alors les Touaregs comme de grands amis des Français. On imaginait même qu'ils pouvaient être les descendants des compagnons de Saint-Louis après que celui-ci soit mort devant Tunis. Donc tout ce qui est écrit dans les années 1860 sur les Touaregs les rend éminemment sympathique et proche de la France. Or, il arrive ce massacre de 1881 qui va être une sorte de coup de tonnerre en France. Et quand on voit l'iconographie populaire de ce massacre de Flat Earth et de ses compagnons, c'est exactement la même iconographie que celle des Américains quelques années auparavant du massacre de Custer à Little Bighorn.
On n'a pas eu de western, l'équivalent des westerns qui montrent le massacre que vous évoquez.
On a quand même tout un cinéma saharien dans les années 30 qui évoque cette conquête un peu de cette façon. Et curieusement, et on l'oublie un peu, c'est toute la veine de cinéma légionnaire d'Hollywood. Hollywood, entre 1920 et la Seconde Guerre mondiale, a multiplié les films liant le légionnaire français. Il y a une fascination d'Hollywood pour la Légion étrangère française, couplée au désert. Il suffit de penser tout simplement à Morocco, le film d'Eric von Sternberg avec Gary Cooper et Marlène Dietrich. On est dans cet univers. Et quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a des dizaines, pas loin, de films à grand spectacle, à gros budget. Alors, il y a juste, pour l'anecdote, parfois quelques soucis, c'est-à-dire les Américains n'ont pas toujours, par rapport aux endroits où ils filment à côté d'Hollywood, ils n'ont pas toujours les dromadaires. Mais c'est pas très grave, comme il y a toujours un cirque ou un zoo local avec des chameaux de Mongolie.
Avec donc deux bosses et non pas une.
Avec deux bosses. Donc on va remplacer le dromadaire à une bosse du Sahara avec du chameau de Mongolie à deux bosses.
Il faut vraiment être pointilleux pour s'en
prendre. C'est excessif. Comme ça, d'imaginaire entre les deux pays. Et il y a le meilleur signe de l'importance de ce cinéma légionno-saharien, pourrait-on dire, à Hollywood, ce sont deux films de Laurel et Hardy qui se moquent eux-mêmes de cette veine. Dans Laurel et Hardy conscrit, par exemple, c'est l'univers de la Légion et l'univers du Sahara qui est présent à Hollywood. Donc il y a un jeu comme ça d'imaginaire entre les deux pays.
Peut-être pouvons-nous remonter en arrière, puisque Hérodote en particulier et Diodore de Sicile dans l'Antiquité ont contribué à définir le Sahara très très tard, finalement, tout au long du Moyen-Âge et pratiquement jusqu'au XVIIe siècle, aux dépens des observations concrètes qu'on aurait pu faire à ce moment-là.
Les premières descriptions, pourrait-on dire, du Sahara, de ce vaste espace, évidemment qui s'appelait pas encore comme ça, ce gigantesque désert, on en voit les premières mentions dans les histoires d'Hérodote, quand il parle des Nazamons, de toutes les tribus de la Libye actuelle.
Cinquième siècle avant Jésus-Christ.
Cinquième siècle avant Jésus-Christ, on a quelques éléments. Hérodote est par exemple l'un des premiers dans la littérature occidentale à parler des sauterelles que l'on mange, à parler du désert, de la chaleur, donne une définition des mirages, etc.
Il évoque les troglodytes éthiopiens, ces tribus, dit-il, dont les hommes sont les plus rapides à la course et vivent de serpents, lézards et autres reptiles. Ils ont un langage qui ne ressemble à aucun autre, ce sont des cris aigus comme en poussent les chauves-souris.
Il est possible qu'il évoque ce qui peuvent être les ancêtres des Toubous actuels, non loin du Tchad, non pas par rapport à ce qu'il dit de leur langage, mais quand il mentionne leur résistance à la course, etc., là, ça correspond à quelque chose qui est toujours vrai aujourd'hui, c'est-à-dire que dans cet ensemble de populations du Sahara, dont on retient de manière abusive que les Touaregs, il y a aussi les Maures, les Toubous, les Bédouins, etc. Et pour ce qui est des Toubous, nous sommes en présence de populations qui sont encore aujourd'hui parmi les plus extraordinairement résistantes à ce climat et à ces conditions physiques. Donc Hérodote, il y a déjà 2500 ans, mentionnait des populations qui ont perduré sans doute dans les mêmes espaces. Et il donne aussi cette définition, c'est le premier à donner une définition des mirages, parce que il écrit par exemple « L'air est rempli d'images de toutes sortes d'animaux, les unes sont immobiles et les autres flottantes ». Mais cette vision d'Hérodote du Sahara, essentiellement du sable, etc., va effectivement, comme vous le dites, va perdurer longtemps, jusqu'à la définition en gros du Sahara par la grande encyclopédie Diderot et d'Alembert
qui copie
presque Hérodote. On a l'impression, alors qu'on connaît, ne serait-ce que par les chroniqueurs et les géographes arabes, on connaît quand même l'intérieur de ce grand désert par Léon l'Africain, par Ibn Khaldoun, par beaucoup d'autres qui ont accompagnés, eux, des caravanes ayant traversé depuis l'Afrique du Nord jusqu'au Niger.
Avec des planisphères remarquables.
Et alors après, ces informations sont récupérées par les Occidentaux et en particulier par les cartographes de Majorque qui vont, sur les portulans et sur les cartes du XIVe et XVe siècle, d'abord très bien représenter la côte ouest africaine et une partie de l'intérieur des terres. Mais là, on voit bien qu'il y avait aussi un intérêt stratégique et économique pour les Portugais et pour les Espagnols et pour les cartographes qui représentent ces espaces. C'est d'essayer d'arriver à l'or du Soudan sans passer par les caravanes de l'islam. C'est-à-dire qu'en partant de la côte et en rentrant dans l'intérieur des terres, arriver dans les territoires anciennement des empires du Ghana et du Mali et accéder à cet or du Soudan dont l'Occident médiéval a absolument besoin. Il y a une soif d'or, on le sait, au XIIe, XIIIe siècle, qui n'est pas satisfaite. Qui le saura à partir du moment où nous aurons les Amériques et à ce moment-là, le Sahara disparaît en quelque sorte des radars de l'Occident parce que...
Ça, c'est l'étape suivante, c'est le 16e.
Voilà. Quand on a l'or d'Amérique qui remplace l'or du Soudan, on s'intéresse, et c'est tout à fait logique, beaucoup moins au Sahara au 17e et au 18e siècle.
Et du coup, c'est au 18e siècle qu'on continue de recopier Hérodote ou Diodore de Sicile, qui a vécu 4 siècles après Hérodote et qui lui aussi peuple le désert de groupes humains tout à fait étranges. Il évoque des strutophages qui fréquente un étrange oiseau, écoutez bien, qui ne le cède pas en grosseur à un cerf de la plus grande taille. Ses flancs sont arrondis et pourvus d'ailes, sa tête est mince et il a le cou fort long. Il marche aussi vite qu'un navire voguant à pleine voile. C'est une évidente description des autruches. Il y en avait plus à l'époque qu'aujourd'hui.
Ah, il y en avait énormément dans le Sahara. J'ai même retrouvé en archive une proposition d'un officier français à la fin du 19e siècle de compagnie montée sur des autruches.
Ça marche ?
D'après les expériences qu'on retrouve dans les archives, il semblait que ça marchait.
Donc en fait, Michel Pierre, c'est le 19e siècle qui voit une mutation majeure. Après la fascination d'un monde inconnu, eh bien on va l'explorer.
La grande science du 19e siècle, c'est la géographie. Donc les grandes sociétés de géographie, Londres, Paris, Berlin, vont tout faire pour qu'on connaisse mieux ces grands espaces. Tout le monde va se lancer, les différentes nations et différents explorateurs de ces divers pays d'Europe vont partir à la reconnaissance, on peut pas dire encore à la conquête, de ce Sahara, poussé aussi par les sociétés anti-esclavagistes qui veulent absolument lutter contre l'esclavage mené par les caravanes arabes, comme on disait à l'époque.
Donc il y a trois ressorts, en fait. Il y a le lucre,
oui.
La recherche de l'or et de richesses diverses. Il y a la préoccupation évangélique. Puis il y a...
La connaissance, oui. L'idée de la connaissance. Le lucre, il est presque pas présent à ce moment-là au 19e siècle, puisque on a un peu perdu l'idée de l'importance de l'or du Soudan. Donc on est vraiment dans un état d'esprit de cette conquête intellectuelle qui deviendra physique de l'Occident vers le reste du monde. À un moment, on s'est même demandé qu'est-ce que c'était cette conquête. Alors on voyait bien physiquement d'avancer au Sahara, cela agrandissait la surface de l'Empire français.
Sur les taches roses, sur les cartes accrochées dans nos salles de classe partout.
Mais l'intérêt économique, par exemple, Vidal de la Blache, le grand géographe...
Qui faisait les cartes, justement, des écoles.
Qui faisait les cartes,
écoles.
Mais qui s'interroge dans un article qu'on retrouve en disant, mais en fait, tout ça va nous servir économiquement à quoi ? La forme de mépris de Lord Salisbury, ministre britannique...
Premier ministre conservateur.
Premier ministre conservateur, qui cède devant quelques revendications françaises sur le centre du Sahara, bien dit, on va laisser le coq gaulois, on va lui laisser du sable pour gratter ses ergots. Donc il y a une forme de mépris, parce que personne n'imagine dans cette fin du 19e siècle toutes les potentialités économiques du Sahara.
D'ailleurs, Michel Debré, premier ministre du général de Gaulle, en 1959, allant inaugurer les pipelines, les oléoducs chargés de transporter le gaz ou le pétrole vers la France, reprenait cette formule de Salisbury de façon ironique, on disait les Anglais ont cru que c'était stérile, mais nous sommes là et le coq gaulois ne se contente pas de réchauffer ses ergots. Quoi qu'il en soit, le 19e siècle, c'est à cet égard, apparaît comme une sorte de parenthèse où en effet la recherche de la connaissance, comprendre, expliquer, c'est l'époque de Stanley Livingstone plus au sud, c'est le temps des explorateurs. René Caillé, le français, qui va découvrir Tombouctou, et puis un autre qui est allemand, lui... un savant qui s'appelle Heinrich Barth, qui est venu voir Tombouctou quelques années après Caillé, dont le récit est intéressant. Je vais vous le faire entendre, lu par Jean-Luc Debatisse. C'est un extrait de l'excellente émission d'Antoine Perrault, Tire ta langue, sur France Culture, le 15 juillet 2003.
J'espérais encore apercevoir bientôt notre caravane. Je crus même un moment distinguer dans l'éloignement un convoi de chameaux. Mais c'était une illusion. Rien au monde ne produisant plus de mirages que les vallées et les plaines du désert échauffées par l'ardeur du soleil. C'est pourquoi les Arabes, qui ont éprouvé de tout temps ces déceptions, ont peuplé le désert d'esprits qui égare le voyageur solitaire et le détourne de son chemin. Finalement, je me levai de nouveau, mais j'étais si faible que je pouvais à peine me tenir sur mes jambes. Le soleil baissait et il me fallait songer à savoir où passer la nuit. J'avais le choix entre une cabane et l'ombre d'un étel qui était à peu de distance et que mon imagination tourmentée m'avait fait prendre pendant quelque temps pour la bascule d'un puits. Je choisis l'arbre et ce fut avec des efforts inouïs que je me traînai jusqu'à lui. Je voulais faire du feu pour indiquer ma présence à mes compagnons, mais la force me manqua pour réunir un peu de bois. Je sentais comme une fièvre s'emparer de moi. Je me couchai presque sans connaissance. Au bout de 2 heures, je me levai et regardai autour de moi. Me soulevant pour jeter encore un triste et dernier regard dans la plaine, j'entendis soudain le cri d'un chameau frapper mon oreille comme le son le plus beau que j'eusse entendu de la vie. Je me levai un peu plus et j'aperçus à quelque distance un targhi qui arrivait lentement en regardant de tous côtés. D'une voix éteinte, je pus encore lui crier « Aman ! Aman ! De l'eau ! De l'eau !» Ce fut avec une joie sans nom que je l'entendis aussitôt me répondre « Iwa ! Iwa ! » En quelques instants, mon sauveur se trouvait à mes côtés, me lavant et me bassinant la tête, tandis que je lui disais instinctivement à plusieurs reprises « Alhamdoulilah ! Alhamdoulilah ! »
Les fous du désert, c'est donc le titre du livre de Heinrich Barth. Michel Pierre, le titre n'est pas mal choisi.
Ces grands explorateurs, découvreurs du Sahara sont effectivement des personnages étonnants qui frôlent souvent la mort, et pour certains nombre d'entre eux, ils sont restés. Dans le cas de Barth, c'est sans doute l'un des plus grands de ces géographes qui avait les connaissances nécessaires avant qu'il ne parte, qui a su rendre tout ce qu'il a pu trouver, qui représente cet international des géographes du 19e siècle. René Caillé écrivait par exemple que les découvertes utiles appartiennent au monde. Donc tous ces grands explorateurs voyageurs, même s'il y avait quand même un petit relent nationaliste, hein, on le voit bien chez Caillé, le premier qui... Enfin, pas le premier, puisque le Major Leng anglais était rentré à Tombouctou avant lui.
Tombouctou, c'est un lieu de concentration du savoir des habitants du Sahara dans la longue durée.
C'est devenu un lieu mythique, évidemment, en Occident, mais c'est un lieu, puisqu'on évoquait aussi le Moyen-Âge, qui montre par le nombre des manuscrits qui s'y trouvent, mais également dans d'autres régions, combien les ouvrages, l'écrit, étaient essentiels aussi comme produits qu'on ramenait vers ces lieux, qui étaient des lieux de savoir, qui étaient des lieux de lettrés. Et là, vraiment, le rôle de ces marchands, de ces lettrés, de ces caddies, de ces juges, de ces missionnaires qui vont vraiment peu à peu étendre l'influence de l'islam qui est à peu près réalisé au XIIIe, XIVe siècle. On le voit par un certain nombre de découvertes archéologiques, par les textes, par les chroniqueurs, par les géographes. C'est au départ une conquête militaire, mais qui a affaire à un empire de Byzance qui est en plein déclin, et puis avec des populations plus ou moins lasses de cette présence byzantine et qui vont adhérer à cette nouvelle religion qui, pour partie, en tout cas dans un premier temps, respecte un certain nombre de lieux de culte et de connaissances pour ce qui est du nord. Mais quand on descend vers le sud, il faut s'imaginer, oui, un mouvement finalement assez long. Mais ces manuscrits, qu'ils soient à Tombouctou, qu'ils soient encore dans des familles à Agadez, qu'ils soient à Chinguetti, ou en Mauritanie ou à Gao, viennent de ce temps des caravanes où Léon l'Africain le dit bien, Waziri pour en arabe, qui est ce grand voyageur, géographe de son temps, mais disons plutôt voyageur et chroniqueur, et qui, dans sa description de l'Afrique, qui est l'un des grands livres traduits dans tous les pays européens au début du XVIe siècle, qui avait été fait prisonnier, converti en quelque sorte à la cour du pape au Vatican et qui publie la description de l'Afrique et qui montre bien toute l'importance, il le dit, de l'échange des manuscrits, du commerce des manuscrits, et que le roi de Tombouctou surtout de l'époque, dans ce qu'il raconte du début du XVIe siècle, n'aimait rien tant que l'écrit, les lettres, les livres qui venaient, y compris de la lointaine Perse.
Les décennies qui suivent l'équipée de Caillé ou de Barthes vers Tombouctou, ce sont les années de la prise en main, la conquête administrative et militaire des territoires sahariens dans une ambiance qu'évoque assez bien Pierre Ishaq en 1953 dans une émission qui s'appelle « Nos amis, les Touaregs » mérite probablement quelques commentaires. Écoutons-la.
La radiodiffusion française présente une émission de Pierre Ishaq et Claude Blanguernon, « Nos amis, les Touaregs ». En entendant la voix aigre et chaude du violon monocorde Limzad des Touaregs, avec sa corde et son archet en crin de cheval et sa caisse faite d'une calebasse fermée par une peau de chèvre, aucun vieux saharien ne peut demeurer indifférent. Dès les premières notes, des sensations et des images surgissent. Le froid nocturne sur un plateau caillouteux du Hoggar. Au-dessus de nous, un ruissellement d'étoiles. Des tentes très basses, très larges, élèvent leur masse noire entre les buissons. Devant l'une d'elles, autour d'un feu, protégé par une paroi de paille, des hommes strictement voilés et de jeunes femmes au visage découvert sont assis à même le sol. L'archet en main, une femme joue et chante. Un chien aboie au loin. Les chevreaux enfermés pour la nuit dans de petites tours de pierre sèche appellent leur mère. Un gargouillement caverneux monte des chamelles accroupies. Non, jamais nous ne pourrons oublier l'intimité fraternelle des campements Touareg, ni les proverbes, ni les chansons, ni l'imzad. Je n'oublierai jamais qu'autrefois, j'ai entendu jouer pour moi la grande, la fameuse poétesse d'Assine. Une voix d'homme s'élève. Ishaq, Awa Limzad, arrête Limzad.
France Culture, Jean-Noël Jeannet, Concordance des temps.
Voilà bien, me semble-t-il, Michel Pierre, une bonne concentration d'un certain nombre d'images, peut-être faut-il dire clichés, qui sont perpétués en France à propos de ce Sahara auquel nous consacrons cette émission.
Nos amis les Touaregs, la fascination qu'ont eu les romanciers, les scientifiques, les voyageurs pour le monde Touareg. D'abord, c'est un monde qui est un peu atypique dans cet univers de l'islam présent dans tout le Sahara. Les premiers voyageurs décrivent justement les Touaregs comme ayant une couleur un peu plus pâle que dans d'autres endroits du Sahara, donc plus blanc. On les présente comme monogames. Donc proche évidemment de la culture occidentale et chrétienne, et d'autant plus chrétienne qu'on trouve des croix symboliques un peu partout, que ce soit sur la selle, la rala, la selle de chameau des Touaregs, que ce soit sur le bouclier, que ce soit sur un... Et on raconte même, on trouve des textes qui disent que ces Touaregs ont des cadis, des chefs religieux qui ressemblent à des curés bretons dans ce qu'ils disent, et que les légendes dans le monde Touareg sont à peu près l'équivalent de ce qu'on trouve aussi en Auvergne ou en Bretagne. Donc on est en train, il y a tout un mouvement qui, à la fin du 19e, s'imagine que ces Touaregs un peu mystérieux sont tout simplement de lointains cousins en étant les descendants des chevaliers de Saint-Louis. Lorsque Saint-Louis meurt devant Tunis, mais une partie de ses compagnons sont descendus vers le sud et ont fait souche et ont donné en quelque sorte naissance aux Touaregs. Donc il y a un imaginaire et une partie de nos amis les Touaregs, c'est un peu ça. Tandis que les morts ou les toubous des deux côtés, ils sont beaucoup plus proches de l'islam.
D'où le rêve d'un certain nombre de missionnaires catholiques de pouvoir plus facilement convertir les Touaregs. En réalité, ça n'a pas marché. Même Charles de Foucault, le célèbre Charles de Foucault, qui était venu là pour évangéliser, n'a pas évangélisé un seul Touareg. C'est aussi le moment où on espère convertir les Berbères ou les Kabyles, parce que on suppose que les Arabes, les conquérants, n'ont apporté qu'une sorte de vernis superficiel à ces peuples qui, du même coup, seraient plus ouverts à cette conversion possible.
Et c'est effectivement un argument supplémentaire, parce que les Touaregs sont des berbères aussi. Donc ça rajoute dans les éléments où on pense qu'ils sont éventuellement évangélisables, même si ce sont des groupes relativement limités. On a donc comme ça un grand mouvement, alors à un moment cassé par ce qu'on disait du massacre de la mission Flatters, mais le rapport nos amis les Touaregs, c'est quelque chose qui est resté très longtemps et qu'on retrouve encore jusqu'à une période très très contemporaine.
Alors que ce sont des amis largement forcés.
Ce sont des amis, c'est le moins qu'on puisse dire, largement forcés. Quand en 1902, il y a la bataille de Tite, c'est une petite bourgade au nord de Tamanrasset, où la noblesse Touareg va rencontrer un détachement français composé de quelques dizaines de combattants, mais supérieurement armés, qui vont attaquer dans une zone relativement plate et ne pratiquant pas le guet-apens dont ils avaient l'habitude. Et là, la noblesse Touareg va être décimée par les fusils français. Tellement décimée que la réaction n'était plus possible. La noblesse Touareg du Hogar ne pourra jamais plus s'opposer à la présence française. Donc il va falloir courber les chines. Pendant des décennies, il y aura bien, alors dans une autre partie du Sahara, la grande révolte de 1915-1916, qui a été réprimée d'une façon assez féroce, c'est le moins qu'on puisse dire, mais tout est terminé, des résistances Touareg, disons, après la Première Guerre mondiale et en 1920, et même avant celle-ci, pour la région du Hogar.
Et on a une idée de la vision des vaincus à l'égard de ceux qui arrivaient avec toute la force, justement, des armements contemporains qui les ont contraint à cette amitié forcée.
Oui, on a une idée assez juste de la vision des vaincus, tout simplement par les poèmes Touareg recueillis par le père de Foucault.
Dans cette poétesse qu'évoquait tout à l'heure l'archive que nous avons entendue.
Dacine en parle parfois dans ce qu'on a, mais surtout des poèmes de combattants. Il y a un poème d'une tribu Taïtok que le père de Foucault recueille en 1905. Et dans ce poème qui raconte un peu la bataille de Tite et qui évoque tous les combattants de cette noblesse tombée sous les balles des fusils français. Et il y a deux vers qui sont importants tout le poème est important, mais l'un des vers dit ceci: « Mieux vaut pour vous, » il s'adresse à ses compagnons, « mieux vaut pour vous gagner par la guerre sainte les récompenses célestes que de vous soumettre à des hommes à bouche non voilée et à moustache de chien. » On comprend par ce poème ce que pouvaient être ces conquérants au système pileux en général avantageux. L'officier français de l'époque au début du XXe siècle porte la barbe, la moustache et ses moustaches de chien. Ce qui évidemment pour le Touareg qui, pour des raisons de bonne éducation, se voile la bouche, on ne montre pas ses organes du visage, se retrouve vaincu par ces personnages étranges à moustache de chien, effectivement, et à bouche non voilée, dont on dit aux enfants, en plus, qu'ils sont anthropophages, qu'il faut se méfier de ces Français qui arrivent, parce qu'ils mangent les enfants, et qui viennent d'un endroit qu'on imagine mal, qui est sans doute une grande île de l'extérieur, et qui n'ont rien chez eux, et qui viennent chez les Touaregs pour tout voler. Donc, c'est très important, cette vision des vaincus qu'on retrouve dans les poèmes de cette époque, et encore pour une longue période. Les Touaregs, où ces tribus contrôlées par la France n'avaient plus le choix que celle de la soumission. Et il faut dire aussi que ces territoires qui ont été uniquement administrés du reste par les militaires, hein, c'était les territoires militaires du Sud, la France n'a pas tenté de modifier grand-chose des systèmes sociaux ou de l'économie, sauf quand même que comme elle faisait par sa présence une ponction importante, ne serait-ce que pour les compagnies méharistes, des dromadaires localement, qu'elle empêchait bien sûr l'économie traditionnelle de la razzia ou bien du racket, entre guillemets, parce qu'on fait plutôt du péage, on peut choisir le mot qu'on préfère, que faisaient les Touaregs ou d'autres sur les caravanes passant sur leur territoire, la France a disloqué l'économie. Et on le voit dans des textes d'officiers qui parcourent le Sahara français, d'officiers français qui parcourent ce Sahara central au début du XXe siècle, ils notent la misère, ils notent la faim, ils notent l'état désastreux des enfants. On a un texte, par exemple, là, de la fin des années 40, début des années 50, de Jean Mallory dans les Annales, qui note, 50 ans après, cette même misère dans ce Sahara français. Donc, il faut éviter, évidemment, d'avoir cette image, j'allais dire, folklorisante de ce monde Touareg, les chants qu'on entendait, les cours d'amour, le Touareg sur son chameau, toutes ces couleurs, toute cette image dont on parle traditionnelle, la réalité était quand même un peu plus difficile.
Alors évidemment, Michel Pierre, évidemment, l'entre-deux-guerres est celui où fleurit spécifiquement un imaginaire français et international sur le Sahara. Le succès de l'Atlantide de Pierre Benoît, ce roman qui ensuite a donné naissance à un film de Pabst, 1932. Il y a eu d'ailleurs deux versions, une version avant et une version après l'invention du parlant. Le roman de Pierre Benoît est de 1920. Antinéa, vous savez que toutes ces héroïnes ont un prénom qui commence par A, Antinéa, l'Atlantide. Écoutez cet extrait que j'ai choisi pour vous, Michel Pierre.
Je me résume. L'Atlantide, ce vieux rêve de l'humanité, ce continent englouti, cette civilisation puissante, nul géographe ne saurait en déterminer avec certitude l'emplacement. Pourtant, ce monde disparu a existé. Que dis-je ? Il existe peut-être encore. Les antiques traditions, les écrits des initiés ne nous permettent pas de douter de la réalité de ce rêve. Nous avons découvert Troie. Nous avons ramené au jour les cités phéniciennes et égyptiennes. Pourquoi ne retrouverions-nous pas l'Atlantide ? Les hommes remontent toujours à la source de leurs songes. On a soutenu cette hypothèse que l'Atlantide avait été non pas engloutie par l'océan, mais submergée par les sables du Sahara. Hypothèse qui repose sur des arguments solides. Combien de caravanes perdues, d'avions disparus, d'hommes égarés sans laisser de traces. Il y a aujourd'hui encore dans le Sahara des contrées que nul Européen n'a pu atteindre, dont nul Européen, du moins, n'est jamais revenu. Ne peut-on imaginer que l'Atlantide n'a pas été engloutie tout entière, qu'elle émerge en partie, qu'elle sert de refuge, de centre de résistance et de retraite aux tribus de l'extrême sud, qu'elle conserve des communications avec la surface, que ce n'est pas une chimère cherchée.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Cet homme a raison.
Hein ?
Parfaitement. L'Atlantide a été engloutie par le Sahara, c'est la vérité.
Bon, comment peux-tu le savoir ?
Je le sais parce que j'y suis allé, je le sais parce que j'ai vu.
Mais quand donc ?
Le roman de Pierre Benoît, l'Atlantide, a eu un succès immense. Je me rappelle que c'était le premier numéro du livre de poche quand on l'a inventé dans les années 50.
Dès la sortie en 1920, on a en fait la conjonction de trois courants qui vont un petit peu changer par rapport à la tragédie de 14-18. On a l'exotisme, on a l'érotisme et on a l'héroïsme. C'est vraiment tout ce qui est dans l'Atlantide de Pierre Benoît.
Tout s'y retrouve.
Pierre Benoît, qui connaissait du reste assez bien ces régions d'Afrique du Nord et du Sahara, et il y a ce livre qui rencontre un succès absolument fabuleux, donc avec effectivement une première adaptation cinématographique, et en 1932, ce grand film expressionniste de Pabst, qui est une initiative véritablement internationale d'un point de vue cinématographique, puisque Pabst prend la grande vedette de l'époque, Brigitte Helm, comme unique héroïne, et c'est celle qui représente Antinéa, mais comme le film est destiné à être distribué en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne, on choisit trois jeunes premiers, chacun originaire de ces trois nations. Donc il y a Pierre Blanchard pour la France, il y a un acteur allemand dont le nom m'échappe pour l'Allemagne et un Britannique. Et à chaque fois qu'on tourne une scène où ce héros est présent, on la tourne trois fois, en français, en anglais et en allemand, avec chacun des héros pour le pays auquel est destiné le film. Brigitte Helm restant l'héroïne absolument superbe et plantureuse, jouant Antinéa.
C'est un cas assez unique à ma connaissance.
Je crois que c'est le seul cas cinématographique, mais qui montre aussi que cet imaginaire dont nous parlons essentiellement autour de la France est assez bien partagé. Puisque si on prend cette initiative dans l'industrie cinématographique d'en faire une version allemande, une version anglaise, c'est que ailleurs en Occident et en Europe, on est un petit peu toujours sur cette, oui, cet exotisme, érotisme, héroïsme qui est le sel d'Antinéa.
C'est d'ailleurs, ce n'est pas par hasard, le début du tourisme international au Sahara, avec en particulier les grandes croisières. C'est le temps de la croisière noire et c'est le temps de la croisière des sables qui concerne directement le Sahara avec des guides qui paraissent et l'idée qu'on peut maintenant faire du tourisme au Sahara. Tout ça est assez lié.
Oui, parce que le tourisme est finalement le meilleur signe de la réussite du colonialisme. À partir du moment où vous contrôlez un territoire et que vous pouvez montrer que vous pouvez vous y rendre soit avec votre véhicule, soit en utilisant des autocars. Il ne faut pas oublier que dans les années 30, vous avez deux lignes hebdomadaires qui traversent le Sahara par étapes dans des autocars à couchettes. Ça nous rend rêveurs aujourd'hui, mais vous avez une ligne Alger-Kano qui, en 11 jours, vous amène par étapes en tant que voyageur, en s'arrêtant dans des bordes bien équipées de douches, restaurants et tout ce que vous voulez, qui vous permet de traverser le Sahara. Et l'un des signes qui existe encore aujourd'hui le plus significatif de cette présence, c'est que en haut de la Sécrème, là où vous aviez l'ermitage du père de Foucault, vous avez encore aujourd'hui une table d'orientation du Touring Club de France installée en 1939. Quand vous avez, dans un contexte de ce type, une table d'orientation en haut de la Sécrème, au centre du Haut-Gard, au centre du Sahara français, comme vous avez une table d'orientation au Mont-Saint-Michel, ça veut dire que vous affirmez votre présence sur un espace par une activité qui est la plus commune qu'il soit, c'est-à-dire celle du tourisme. Donc c'est le meilleur exemple qu'on puisse trouver, que tout est pacifié, comme on le disait à l'époque, c'est que vous pouvez aller en toute sécurité, y compris matériel et mécanique, jusqu'au centre du Sahara.
Un autre signe, c'est la naissance du premier Paris-Dakar en motocyclette, qui date de 1938.
Il y a le Sahara des touristes et puis il y a le Sahara technique, celui où on améliore les moteurs, on peut traverser en moto, traverser bien sûr en automobile, survoler en avion. Il y a un rapport aussi mythique de la technique au Sahara, qui est vraiment l'exemple où on peut conquérir l'espace grâce à la technologie occidentale.
Et puis, Michel Pierre, il y a la dimension religieuse qui demeure avec cette figure tout à fait importante et qui le devient de plus en plus en réalité à mesure que le temps passe, de Charles de Foucault, martyr assassiné.
Oui, martyr.
Le mot est trop fort. Alors je le retire.
Le mot est sans doute un peu fort. En fait, il meurt tué par l'un de ses gardiens.
C'est presque accidentel.
J'ose pas dire que c'était une bavure. Ce serait peut-être un peu réduire les choses. Mais en tout cas, il meurt dans des conditions violentes. Et peu à peu, sa figure va se transformer en martyr. Et d'autant plus facilement qu'il représente dans la mythologie française les trois grandes figures du Sahara, et d'ailleurs, il est militaire, il est explorateur,
d'abord
et il est
débauché, missionnaire. Débauché d'abord.
Alors, en plus, il a eu une existence un petit peu légère, pourrait-on dire, quand il était à Saint-Cyr, à Saumur et dans sa vie militaire. Puis après, il y aura l'exploration au Maroc, la vocation religieuse, mais il restera dans les valeurs militaires jusqu'à la fin de sa vie. Il faut bien voir aussi que quand il est installé au milieu du Haut-Gard, c'est une idée du général Lapérine pour, en quelque sorte, plus efficacement qu'installer une garnison, avoir un officier missionnaire présent au centre du Haut-Gard.
Et il est tout à fait remarquable qu'il devient de plus en plus respecté et connu à mesure que le temps passe, puisqu'on donne le nom de Foucault à une promotion de Saint-Cyr au début de l'époque de Vichy et qu'il a été encore fait bien heureux par Benoît XVI.
Oui, alors, ce sera peut-être un jour un saint, mais c'est un peu plus compliqué. Il devient un personnage à ce point populaire en France que le film qui va être tourné sur sa vie, L'appel du silence, est fait à partir d'une souscription publique. C'est-à-dire, ce sont les Français, en 1936, la date, on voit que c'est peut-être pas tout à fait le même électorat que celui du Front populaire, en 1936, la somme d'argent nécessaire au tournage de L'appel du silence sur la vie de Charles de Foucault est réalisé par souscription publique, le film ressortant sous le régime de Vichy qui va faire un usage pour le moins abusif de la figure de Charles de Foucault qui représente en quelque sorte des valeurs extrêmement importantes pour le régime du maréchal Pétain entre le militaire et le missionnaire.
Vous parlez de Vichy, Michel Pierre. C'est un moment intéressant aussi dans l'histoire de ce Sahara vu de France, puisque c'est le temps où le gouvernement du maréchal Pétain a des ambitions et nourrit en particulier l'idée ancienne déjà d'un chemin de fer transsaharien, comme il y a un transsibérien. L'amiral Platon, qui est secrétaire d'État aux colonies, l'amiral Platon, va faire un voyage avec un autre ministre, Berthelot, en avril 1941, et il le commente ainsi à la radio d'État.
Le contre-amiral Platon, secrétaire d'État aux colonies, et M. Berthelot, secrétaire d'État aux communications, après avoir en moins d'une semaine survolé le Sahara, sont de retour à Vichy. Ils sont allés étudier le futur tracé de ce transsaharien dont le gouvernement du maréchal a décidé la réalisation. C'est ainsi qu'ils ont pris contact avec une des œuvres les plus grandioses que le génie français ait pu concevoir au cours de ces 20 dernières années. La mise en valeur de la vallée du Niger et la résurrection par les eaux du fleuve d'un immense territoire à l'heure actuelle désertique, telle est la tâche immense et féconde à laquelle s'est attachée la France depuis des années et dont le contre-amiral Platon va nous préciser l'ampleur et la portée.
Nous venons en quelques jours de survoler dans les deux sens le centre de cet empire africain que nous devons à l'esprit d'entreprise et au courage d'une poignée de ces Français qui ont fait la France éternelle. De mes trop brefs contacts avec nos administrateurs, nos officiers, nos colons, les indigènes de toute race et de toute religion, je rapporte la plus réconfortante impression et la plus grande confiance dans les destinées africaines de notre pays. Partout, à Alger, à Colombéchard, à Gao, à Ségou, à Tombouctou, sur les bords du Niger, j'ai pu constater à quel point la France a su se faire comprendre et par là même se faire aimer. À ceux qui doutent encore de notre génie colonisateur, je conseille un pareil voyage. Ils le verront, notre œuvre africaine n'a pas été stérile. Les indigènes de nos colonies sont français de cœur et d'âme. Leur regard, aujourd'hui plus que jamais, se tourne avec confiance vers la France, vers son empire et vers son glorieux chef, le maréchal Pétain. Mais ce don total d'eux-mêmes qu'ils ont fait à la France ne nous confère pas que des droits. Ils nous imposent aussi le devoir de tout faire pour que la mission de civilisation que nous avons assumée à leur égard soit mené jusqu'au bout, en dépit des circonstances.
Dans cette histoire que nous évoquons, Michel Pierre, du rêve français du Sahara, cette période de Vichy n'est pas sans importance.
Elle est même, je crois, essentielle. On a un régime de Vichy, on a l'État français qui est un État soumis, humilié, réduit, mais qui, théoriquement, a toujours l'autorité sur les colonies françaises. Donc le régime va, pendant quelques années, valoriser toutes les grandes figures de la colonisation et va relancer un certain nombre de travaux. C'est Vichy qui relance, sous le nom du reste du Méditerranée-Niger, le vieux rêve du transsaharien, qui va débloquer des sommes d'argent, qui va y envoyer des travailleurs forcés pour tenter, ce que dit l'amiral Platon, pour tenter de réaliser ce grand rêve qui remontait déjà au Second Empire. On voit bien comment on est dans une longue durée aussi de cette mythologie française, et Vichy va faire de cet immense Sahara comme un contrepoids de ce petit État sans véritable pouvoir.
Donc jusqu'à l'arrivée de la France libre.
Jusqu'à l'arrivée de la France libre.
Venue de l'AEF, l'Afrique
équatoriale. Mais qui vient plutôt de l'AEF et du Tchad que véritablement de Dakar ou de cet AOF. Donc, et l'Algérie restant jusqu'au dernier moment, en quelque sorte, jusqu'au débarquement américain sous autorité de Vichy.
Donc, jusqu'à novembre 42.
Le Sahara est une sorte de réservoir idéologique par ces grands personnages, ces grands héros, ces grands mythes très présents dans la presse de l'époque, dans les journaux pour enfants, etc. Vichy a fait une utilisation du Sahara tout à fait étonnante.
La promotion Charles de Foucault à l'époque de Vichy, n'est pas la dernière à porter un nom qui évoque le Sahara.
On pourrait faire aussi tout un travail sur les noms des promotions qui évoquent le Sahara et qui sortent de Saint-Cyr. 1941-42, promotion Charles de Foucault. 1956-58, promotion Général Lapérine en pleine guerre d'Algérie. Ce Général Lapérine qui a été le fondateur des compagnies méharistes en 1902, chef mythique des territoires du Sud et qui est compagnon de Charles de Foucault, qui est l'une des grandes figures de l'histoire militaire du Sahara. Et tout à la fin de la guerre d'Algérie, juste l'année de l'indépendance, la promotion 62-63 qui prendra le nom de Birakem. Chacun de ces noms n'est pas choisi par hasard.
Mais Birakem, ça a un autre sens. Birakem, c'est évidemment la première des grandes victoires de la France libre sur ce territoire.
Oui, mais qui reste dans la zone du Sahara et qui a évidemment une autre signification, mais qui tendrait à montrer que même une petite minorité de militaires engagés et héroïques peuvent changer le cours des choses, comme certains ont pu encore le rêver peut-être en 1962 dans certains secteurs de l'armée française.
Certainement, mais 62 arrive à un moment donné où on vient de découvrir que le Sahara pouvait avoir des richesses imprévisibles, c'est-à-dire en particulier du pétrole et du gaz. C'est 1956 que apparaissent dans l'imaginaire français et dans la réalité de la réflexion économique des Français à Sirmel ou à Sim Saoud, le pétrole et le gaz.
Aux vieux rêves dont on vient de parler s'ajoutent là des rêves plus contemporains, plus modernes, avec le pétrole et le gaz naturel qui jaillissent enfin en 1956 et qui vont transformer une image, un certain nombre de réflexions sur la guerre d'Algérie et sur l'indépendance de l'Algérie.
D'où d'ailleurs le salut que vient apporter Charles de Gaulle, le général de Gaulle, qui est encore président du Conseil avant d'être élu président de la République, avant qu'entrent en vigueur les institutions de la Cinquième, le salut qu'il apporte à Tougourte le 6 décembre 1958.
Le Sahara, pays immense, que tout à coup, une espèce de miracle vient de révéler au monde entier qui, par le pétrole, acquiert soudain une importance immense, mais qui, malgré cette nouveauté, doit rester le Sahara, le pays du courage, le pays de la tradition, et aussi un pays multiple dans ses activités. Il est bon, il est nécessaire que les Sahariens collaborent au travail immense qui est entrepris ici pour faire jaillir du sol ces grandes richesses nouvelles. Ah, les attardés de la guerre civile, qu'ils comprennent à la fin des fins que la page des combats est tournée et que maintenant c'est la page des hommes, du progrès, de la civilisation, la page des hommes fraternels. Vive notre Sahara ! Vive le France !
Ce souhait de Gaulle et des siens de pouvoir continuer d'exploiter les richesses du Sahara explique d'ailleurs un certain retard dans l'aboutissement des négociations avec le FLN, avec le GPRA, avec le gouvernement provisoire de la République algérienne, qui aurait probablement pu s'achever dès 1961 et non pas seulement à Évian en mars 1962.
Oui, il est possible que les enjeux sahariens aient prolongé la guerre d'Algérie de quelques mois. On le voit bien dans le discours du général de Gaulle à Tougourte que cette richesse dont on imagine à l'époque qu'elle peut aider directement, d'abord contribuer au développement de l'Algérie dans un premier temps, mais également profiter à la France dans des proportions qu'on imagine entre le parfois entre le quart et la moitié des besoins en hydrocarbures de la France en pleine reconstruction. D'où l'importance économique du pétrole et du gaz. Moins directement dit par le général de Gaulle, il y a aussi l'importance du Sahara, à la fois pour les essais nucléaires et puis à la fois pour les fusées devant accompagner cet effort des expériences nucléaires et de la bombe atomique française. Donc, il y a trois revendications en quelque sorte sur lesquelles de Gaulle ne veut pas céder par rapport aux discussions face au GPRA. C'est de continuer à avoir une sorte de contrôle sur les hydrocarbures, que ça puisse continuer à profiter à la France, et également de continuer les expériences, soit balistiques, soit nucléaires. Ce qui va finalement être accepté par le GPRA, mais après des discussions, des pressions, l'idée laissée que laisse filer un moment le général de peut-être créer une sorte de Sahara avec plusieurs autres États, plus ou moins indépendants, plus ou moins autonomes.
Il charge son ministre Alain Perfit, d'ailleurs, de lancer
Alain
ce ballon d'essai.
Alain Perfit sort son article et le livre sur le partage de faut-il partager l'Algérie. Ça fait partie de ce jeu diplomatique entre le général et le GPRA, jusqu'à ce que, finalement, ce dernier accepte que la France puisse faire encore des expériences après l'indépendance, que ce soit dans le domaine nucléaire ou le domaine des fusées.
Mais avec un terme fixé.
Avec un terme qui est fixé et des conditions qui seront précisées dans des éléments plus ou moins secrets et des expériences qui, dans le domaine non conventionnel, pourrait-on dire, y compris d'armes bactériologiques, va continuer plus longtemps encore dans les années 1970.
Et il faudra attendre l'opération Serval pour que on voit revenir en abondance des troupes françaises. Mais ceci est une histoire plus contemporaine qui me paraît néanmoins avoir été éclairé, Michel Pierre, par notre conversation sur le Sahara, réalité et mythologie vue depuis la France. Votre livre sur lequel nous avons fondé notre conversation s'intitule « Sahara, le grand récit ». Il vient de paraître chez Belin, tout récemment, à la fin de 2014. Je signalerai aussi la réédition chez Artaud des romans de Roger Frison-Roche, qui représente bien cette littérature très populaire, notamment de l'entre-deux-guerres et des années 50. Et puis, il faut nommer Théodore Monod, qui est également une figure un peu mythique, qui a écrit un livre qui s'appelle « Méharé, exploration au vrai Sahara », publié en 1937 et réédité chez Actes Sud en 1989. Oui, Théodore Monod, c'est une figure importante aussi.
C'est une figure qui a participé de cette d'autres images du Sahara, qui écrit admirablement bien, qui a payé de sa personne, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui a quelque chose d'un peu nouveau et de particulier dans les écrits sur le Sahara, c'est qu'il fait souvent présence d'humour. L'humour me semble pas la qualité première de beaucoup d'écrits sur le Sahara, sauf chez Théodore Monod, qui pourtant dans l'effort physique, dans le toute cette extraordinaire existence pendant des décennies à parcourir le Sahara en long et en large dans des conditions difficiles, est capable de cette distance, véritablement de cet humour et de raconter un Sahara qui se mérite d'être découvert encore aujourd'hui par lui.
Vous pourrez retrouver une bibliographie plus complète que celle que je viens de vous donner sur notre site, vous le savez, et les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, nous vous transporterons en direct et en public devant les Rencontres de Genève, dont c'est la première édition. Et nous nous interrogerons sur l'histoire de la Suisse comme île pour la paix. Pourquoi? Comment? Avec Irène Herrmann. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, par Antoine Tricot, réalisée par Patrick Molinier, comme chaque semaine, avec à la prise de son Jean-Guilain Meige, avec Antoine Villose à la discothèque, et Véronique de Saint-Pastou pour les Archivina. Dans quelques instants, je passe mon micro, je passe le témoin à Dominique Rousset qui vous rejoint pour l'économie en question.